France Culture. À voix nue, deuxième épisode, à l'école des trois gros. Bonjour Guy Savoy.
Bonjour.
On vous a laissé sur le pas de la porte de cette maison vénérable des trois gros, Pierre et Jean, à Rouen. C'est déjà une institution, donc quand vous y entrez en 1970.
Ah oui, c'est bien sûr que c'est déjà une institution en 70.
Parlez-nous de cette maison trois gros.
Ils étaient au sommet, dans tous les guides, et oui, c'était assez impressionnant de voir, moi qui arrivais de ma bonne ville de Bourgoin-Jallieu, c'était de voir un autre monde, quoi. Enfin,
mais vous saviez où vous mettiez les pieds? Où vous étiez renseigné? Où vous y alliez comme ça?
Non, alors bien sûr, lorsque j'ai su que je rentrais chez les frères Trois Gros, vous savez, moi je savais pas ce que c'était qu'un restaurant gastronomique. Pour moi, la cuisine, c'était la cuisine de ma mère, puisque c'est celle avec laquelle je me régalais. Donc voilà. Et là, je me suis rendu compte de ce que c'était, quoi, qu'on allait passer à une autre dimension. Et bon, mais j'ai pas été déçu, quoi.
Ils faisaient quelle cuisine? Parce que c'était quand même l'un des foyers de la nouvelle cuisine.
Donc c'était là aussi, on défendait. On défendait à fond la gourmandise. Ben, je vais vous dire, c'est citer quelques plats. La mousse de grive aux genièvres, qu'on retrouvait d'ailleurs chez Fauchon à Paris à l'époque. Maintenant, les grives, c'est interdit. On ne peut plus commercialiser. Le saumon à l'oseille, bien sûr. La pièce de bœuf au fleuri et à la moelle. La fricassée de poulet au vinaigre. Voilà le genre de plat. Quoi. Et c'était... tous les autres plats avec... parce que c'était pléthorique. J'ai fait mes premiers lièvres à la royale, vu mes premiers turbos, cuisiné en quantité mes premières truffes. Voilà, c'est tous ces produits que je n'avais jamais vus. J'avais jamais vu un turbo de 10 kilos. Donc oui, sur le marché de Bourgoin-Jallieu, vous ne pouviez pas trouver des... Bon, qu'est-ce qu'on trouvait
Mais vous n'aviez pas un CAP en poche à l'époque?
Non, toujours pas. Non, parce que en pâtisserie, après ces 9 mois où vraiment... Mon maître d'apprentissage, Louis Marchand, a mis les bouchées doubles pour que j'apprenne le maximum de choses. Donc c'est vrai que je maîtrisais un peu toutes les bases de la pâtisserie. Je savais faire une pâte à brioche, une pâte feuilletée, une pâte brisée, une pâte sucrée. Enfin, j'avais une crème au beurre, une crème pâtissière. J'avais ingurgité tout ça pendant ces 9 mois. Plus, j'avais assisté aux fêtes de Noël dans une pâtisserie. À l'époque, je travaillais 20 heures sur 24. Encore une fois, c'est pas une complainte quand je dis ça. C'était... comme ça, et c'était comme ça, voilà. Donc, voilà, et j'arrive et je vois, bon, un autre monde, voilà. Donc, alors, le premier rôle du ce qu'on appelait le dernier apprenti, c'est-à-dire la dernière entrée, c'était déjà d'allumer le fourneau à charbon le matin. Vous imaginez, enfin, on est en 70, c'est vrai que ça fait 55 ans. Et déjà, je vais vous faire du Zola, parce que c'est... Quand j'explique parfois à des jeunes... et encore, c'est pas pour jouer les vieux cons, mais je leur dis, voilà, le matin, eh ben moi, je montais mes poubelles de charbon pour remplir les 2 soutes qu'il y avait sous le fourneau. Ça, c'était le premier rôle. Enfin, concomitamment, on avait un autre rôle, c'était de commander les herbes. Il y avait un jardinier à Rouen qui s'appelait Livet. Voilà, c'est Livet. Donc, le soir, moi, je devais aller déposer dans sa boîte aux lettres la commande des herbes et différents légumes, les épinards, enfin tout ce qu'il y avait selon les saisons. Comme moi, je suis arrivé en avril, donc on allait vite avoir toute une grande variété de légumes. Donc voilà. Donc le lendemain, monsieur Livet en question, livrait les légumes, et c'est moi qui portais la commande. Donc déjà une forme de responsabilisation. Et puis j'étais aussi responsable du maintien de cette fameuse chambre froide où il y avait tous les légumes.
C'est formateur.
On apprend vite la rigueur, on apprend vite que voilà, que tout est important, même la commande des herbes fraîches le soir, quoi. Donc, et c'est ça. Et c'est en fait très important parce que on a l'impression, moi j'avais cette impression, c'est que la maison reposait aussi sur mes épaules. Ce qui est une merveilleuse sensation. Parce que vous dites, voilà, moi, simplement, avec mes herbes et mes légumes, voilà, mon rôle est important.
Est-ce que vous pouviez aussi, à ce moment-là, apprendre en répétant les gestes, en imitant, comme vous aviez fait, d'une certaine façon, avec votre mère, au départ
puisque... Absolument. Ah, mais moi, c'était le geste des frères Trois Gros, les gestes. Pour ça que, souvent, j'ai un problème avec le mot « métier manuel ». Je crois qu'on est, la plupart des métiers sont des métiers gestuels. Gestuels, si le geste n'est pas juste, il se passe des choses, quoi. En cuisine, si le geste n'est pas juste, dans le moins pire des cas, vous vous salissez, et dans les deux autres, vous vous coupez ou vous vous brûlez. Donc, je trouve que manuel, ça suffit pas, quoi. Gestuel, ça prend vraiment toute sa signification. Et c'est vrai que moi, je me souviens, lorsque Jean Troisgros décroche, vous savez, on a une barre à dents où les casseroles sont accrochées. Lorsqu'il décrochait une casserole, le geste était magnifique. Il prenait la casserole par la partie casserole, il la décrochait, l'autre main prenait la queue de la casserole et il la faisait atterrir sur le... Je dis bien atterrir, hein, c'était sans faire de bruit, quoi. C'était pas on balance la casserole, non. On respecte la casserole. Et pendant que sa casserole chauffait, s'il avait une pièce de bœuf à cuire, il prenait cette pièce de bœuf, il avait une espèce de rapport, comment vous dire, charnel avec cette pièce de bœuf. Et il l'assaisonnait. Et je suis sûr que si on avait pris un microscope, on se serait aperçu que les grains de sel étaient équidistants. Tellement le geste était élégant et précis. Et ça, je disais, mais est-ce qu'un jour, je pourrais faire les choses comme ça, quoi? Donc, c'était important de les regarder et d'être... Il y avait une forme de... d'émerveillement, en fait, hein, de dire comment ce geste peut être aussi juste et surtout aussi élégant. Et je me souviens, s'il y avait quelques grains de sel qui étaient tombés à côté de cette fameuse pièce de viande, avec un petit coup de torchon... La planche était nettoyée et le poste de travail était toujours d'une propreté incroyable, quoi. Et les gestes étaient ni lents ni rapides. Cette élégance créait l'efficacité. Une forme de, enfin, je sais pas si le mot est exact, mais une forme d'hyperdignité dans le travail, quoi. Il n'y a pas cet ensauvagement, il n'y a pas, c'est pas le travail punition. C'est le travail qui devient beau, quoi. Je crois que la plus belle définition du travail, c'est Alexis Grus qui me l'a donné. C'était dans mon ancienne adresse. Il me dit, tu sais, Guy, au cirque, on dit le travail doit faire oublier le travail. Et je trouve que c'est la plus belle définition qu'on m'ait donnée du travail. Donc, lorsque le travail est tellement bien fait, on se rend même plus compte que c'est du travail. Et donc ça, ça ne me quitte jamais, quoi. Voilà.
Vous y avez passé 3 ans.
3 ans.
Chez les Troisgros. Vous avez progressé? Est-ce que dernier apprenti en date a fait du chemin?
3 ans à cette époque, je pense que c'est équivalent à 10 ans maintenant.
C'est beaucoup.
Oui, c'est 10 ans maintenant. Mais encore une fois, c'est pas une complainte, hein, je veux bien.
C'est un constat.
C'est un constat. On travaillait beaucoup, mais déjà, il y avait une ambiance formidable. C'est là où j'ai rencontré mon grand complice, Bernard Loiseau. Et puis d'autres, mais on pourrait penser que c'est l'univers impitoyable du travail. Non, c'est le travail anobli. Mais c'est pas si le mot convient, mais c'est de se dire, on peut être un travailleur élégant, on peut, voilà. Et puis plus l'élégance est présente, je suis convaincu que plus le résultat est probant. C'est évident. Moi, je le vois bien quand les ici, dans la cuisine, je ne veux aucun bruit. Donc, il n'y a que des sons. Hein. Les sons de cuisine, c'est normal. Et ça participe à l'élégance. On a la chance d'avoir des fenêtres dans la cuisine, on a la chance d'avoir l'espace, on a la chance d'avoir les ustensiles qu'il faut, on a la chance d'avoir le nombre de personnes qu'il faut. Donc, on n'a aucune raison d'être dans un mauvais stress. On doit être dans une attention, mais pas dans l'attention, en deux mots. Ça, c'est important, et moi, c'est ce que j'essaye toujours de faire passer, et c'est vraiment la conséquence de cette formation extraordinaire que j'ai eu la chance d'avoir, quoi. Et ce que j'essaye aujourd'hui de transmettre à tous ces jeunes qui viennent chez nous. Et là, je fais une parenthèse, parce que je considère que les 18-25 ans, aujourd'hui, hein, en 2025, sont bien meilleurs qu'il y a 20 ou 30 ans. Que j'ai encore pas trouvé l'analyse parfaite, parce que la passion, je l'avais il y a 50 ans, hein, maintenant c'est passé au terme addiction, mais on a toujours eu la chance d'avoir dans le métier des gens passionnés. Mais là, il y a une, je sais pas, il y a une dimension supplémentaire. Et je crois que ça tient à cette génération. Et j'ai deux points. Le point professionnel, avec ici. Et puis, mes petits-enfants, qui ont entre, je dis bien, donc les enfants de mes enfants, qui ont entre 25 et 17 ans, donc pile dans le créneau que j'ai ici. Et je m'aperçois, aussi bien à travers eux et que leur fréquentation, leurs amis, je sais pas, ils ont une certaine idée, tous hein, de ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils veulent le faire et comment ils vont le faire. Et je trouve que c'est très rassurant. Moi, ça me rassure beaucoup de voir cette génération qui arrive pleine de motivation, ils sont conscients qu'il risque d'y avoir des difficultés, mais des difficultés, il y en a. Alors, je peux vous dire qu'il y en a à toutes les générations. Hein. Encore hier, je rappelais, parce que je ne sais pas quel de vos confrères disait, vous n'avez pas l'impression que c'était plus facile à votre époque. Voilà, il y a tout de suite un paramètre qui m'est venu dans la tête. C'est moi que lorsque je me suis installé, j'empruntais à 13,60%. On a oublié que dans les années 80, les taux bancaires étaient à ce niveau-là. Je dirais que chaque époque a ses côtés positifs, à ses côtés négatifs. Qu'est-ce que je pourrais ressentir aujourd'hui de négatif ? Je ne le ressens pas trop chez moi, mais on a l'impression que l'atmosphère ambiante, on a l'impression que peut-être que les gens ont un peu perdu la patience. Il faut du temps. Il faut du temps. Mais ça, après, bon, je pense que c'est pas le compliqué, moi, qui depuis le début vous dis, si j'étais pas dans le concret et l'instantané, mais c'est peut-être pas de l'impatience, ça. C'est autre chose, quoi. Je referme la parenthèse, en tout cas, je peux dire que la nouvelle génération, je la trouve noble.
On revient à vos 18-25 ans, un peu en arrière. Donc vous êtes resté 3 ans chez les frères Trois Gros.
Ouais.
Vous racontez qu'un jour, le critique Christian Millot, qui venait te faire un guide qui aura lui-même
beaucoup de
succès, le Gomillot, vous racontez qu'il est venu, Christian Millot, faire un stage d'une semaine chez les Trois Gros. Ouais. Et puis qu'après, il a raconté son expérience dans le magazine Gomillot, ouais. Tout jeune, avec un mot sur chacun des membres de la cuisine.
Ouais.
Et que sur vous, il avait écrit « Voici le jeune Guy Savoie, les frères Trois Gros assurent qu'on en reparlera dans 10 ans. »
On en entendra parler dans 10 ans.
Ouais. Encore plus précis.
Non, ce qui est encore mieux. Et moi, je découvre ça. Je dis « Mais pourquoi ils ne me le disent pas ?» Parce que vous savez, c'était encore une... Enfin, c'est une génération où le compliment n'est pas vraiment... de mise, quoi. C'est, voilà. Et c'est vrai que le jour où j'avais lu ce rapport de stage, en fait, je sais que ça m'avait beaucoup marqué, parce que si je reviens sur le début, par exemple, les 2 premiers mois, il n'était pas question que je lâche prise. Mais si on m'avait dit « tu fais pas l'affaire », ça ne m'aurait pas dérangé. Parce que c'était quand même un changement de vie brutal. Moi, j'avais une vie familiale formidable. Lorsque j'étais en apprentissage de pâtisserie à Bourgoin, ben j'avais gardé tous mes copains d'école. Hein, bon, qui le soir, à l'époque, il y avait encore des balles, donc le samedi soir, ils partaient au bal et moi, je partais au labo. Mais bon, mais ça, encore une fois, ça ne m'a jamais vraiment troublé. Cette forme de marginalisation ne m'a jamais troublé. C'est-à-dire que j'assumais complètement mon choix.
Mais là, chez les Trois Gros au début, n'empêche que c'était difficile.
Ben c'est difficile, oui, parce que je quittais un cocon, une forme de cocon.
Vous étiez jeune aussi.
Oui, voilà. Donc, oui, 17 ans, même pas 17 ans, 16 ans et demi. Oui, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais vous vous êtes accroché et vous êtes.
Oui, je rentre en stop parce que j'avais pas les moyens de prendre le train, quoi. Donc, les jours de congé. J'essayais de travailler plusieurs semaines sans jour de congé pour avoir 3-4 jours pour. Voilà. Enfin, pas tout le temps, mais très souvent, je rentre en stop. Ouais.
Au bout de 3 ans, Guy Savoie, vous quittez les Trois Gros, vous allez chez Lasserre, voilà. À Paris, vous y passez 1 an, vous passez faire votre service militaire chez les chasseurs alpins. Ouais. C'est important de le signaler parce que les Alpes, ça compte, aujourd'hui pour vous.
Ça compte.
Ensuite, il y a eu le Lion d'Or à Colonie, en Suisse, puis l'Oasis sur la Côte d'Azur à la Napoule. Vous succédez à votre ami Bernard Loiseau à la barrière de Clichy, vous restez 2 ans.
Ouais. 3 ans.
Trois ans, et puis vous ouvrez votre premier restaurant
Paris,
en 1980. Rue du Ray, dans le 16e arrondissement.
Rue du Ray, dans le 16e, entre Foch et Grande Armée, oui.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie, vous vous êtes dit, je suis prêt, j'y vais, c'est bon? Envie de s'inscrire dans une filiation gastronomique, mais envie de s'affirmer, de prendre son émancipation?
Envie, oui, alors, je vais vous dire, l'envie, elle est très simple, je crois que, à partir du moment où j'ai mis les papilles dans ce métier, l'objectif, c'était d'être à la tête de mon propre restaurant. Voilà. Mais je crois que c'est l'objectif de tous les artisans. Hein, le plombier, il a envie d'avoir son entreprise de plomberie, j'imagine, ou alors il rentre dans une grande structure, devient chef d'équipe, après un plan de carrière. Bon. Là, bon, ces 3 années à la barrière de Clichy ont été formidables. Le patron des propriétaires des barrières, parce qu'à l'époque il y en avait plusieurs à Paris, était Claude Verger. Et Claude Verger était un homme qui avait une sensibilité, une clairvoyance, et puis une forme aussi d'audace, parce qu'ouvrir un restaurant aux portes de Paris, c'est-à-dire en proche banlieue, c'est vrai que Michel Guérard avait montré aussi la voie avec son pot-au-feu à Asnières, où le tout Paris allait. Donc, et Claude Verger avait fait cette barrière de Clichy, d'abord animée par Bernard Loiseau, après, je m'en suis occupé pendant 3 ans, et là, pendant ces 3 années, je me suis formé, quoi, parce que Claude Verger, en fait, avait cette capacité à faire grande confiance. Moi, j'avais 23 ans, donc ce qui prouve que lorsqu'on fait confiance aux êtres humains, ils sont capables de s'épanouir. C'est ce que j'ai fait pendant ces 3 années, je me suis épanoui, ça m'a permis de me faire connaître. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que je m'aperçois déjà au bout de 2 ans que mon envie, mon besoin d'avancer est un peu bridé. Donc, je dis, il faut que je trouve une solution. Et à ce moment-là, j'ai pu trouver cette solution grâce à une aide extérieure, sur en tout cas les 2 ou 3 premières années. Après, j'ai gagné complètement mon indépendance et mon autonomie. Et là, à ce moment-là, lorsque je me suis donc installé rue du Ray à mon compte, je n'avais plus de cadre. Enfin, c'était liberté totale. Liberté frénétique même, parce que mon épouse à l'époque m'a dit que les 6 premiers mois, j'avais dormi 2h30 par nuit. Parce que j'allais à Rungis. J'allais une nuit au poisson, c'est-à-dire que je fermais le restaurant, je partais au poisson, donc j'avais... Et je rentrais vers 3h du matin pour venir dormir. Et puis le lendemain, je faisais les volailles, les abats, les légumes. Donc, je fermais le restaurant le soir, j'allais dormir jusqu'à 5h du matin et je repartais à Rungis pour justement tout ça. Et j'ai fait ça pendant les premières années. Mais une espèce de, comment vous dire, une énergie que j'aurais peut-être pu un peu plus canaliser, mais... J'avais ce besoin de me lancer dans la... pas dans la bataille, parce que c'est pas une bataille, mais me lancer dans le grand bain, mais avec toute la... avec tout. Hein. Mon cœur, mes tripes, tout, quoi.
Donc vous cherchiez, vous expérimentiez, testiez.
Oui, je testais, puis je voulais surtout montrer ce que je voulais comme produit.
Et vous saviez ce que vous vouliez faire comme cuisine vous...
Ah, bien sûr. Ah,
c'est-à-dire quelle cuisine vous aviez envie de faire? On est au début des années 80.
La cuisine que je fais encore aujourd'hui avec certainement des évolutions, avec des évolutions, mais c'était d'abord la je voulais avoir les plus belles langoustines, je voulais avoir les plus belles Saint-Jacques, je voulais avoir tout ce qu'il y avait de plus beau. C'est pour ça que j'allais justement à Rungis, c'était pour montrer à ces fournisseurs qui me connaissaient pas vraiment, à part mes années de chef à la barrière de Clichy, j'avais encore pas vraiment montré ce que je souhaitais. Et là, c'est dire que j'ai vraiment je voulais être dans la singularité, mais singularité, c'est-à-dire de s'il y avait une caisse de très très grosses langoustines, il fallait que ce soit pour moi. Et pour qu'elle
Mais ça fait pas le cuisinier. Vous parlez souvent, Guy Savoie, de la magie de la transformation.
Oui, mais alors après.
La base, c'est le bon produit, mais avec la langoustine, il faut savoir ce qu'on fait.
Vous ne pouvez avoir la magie de la transformation qu'avec des produits exceptionnels.
C'est pour ça, c'est la base.
Voilà, ça c'est la base. C'est-à-dire, si vous n'avez pas ça, bon, c'est.
Et ça, vous l'aviez appris tout petit déjà.
C'est pas. Absolument. Mais oui, mais justement, c'est le fond, c'est le socle. Et là, c'est. Ben, la cuisine, c'était. C'était des choses. Qu'est-ce que j'ai fait très vite? J'avais fait ces huîtres en nage glacée. Parce
déjà
que, oui.
Qui est un des plats phares de Guy Savoie.
Oui, voilà.
Que vous faites encore.
Oui, qu'on fait encore, associé maintenant avec un concassé d'huîtres et puis un granité d'algues et citron. Mais à l'époque, voilà, mais pourquoi? Mais de manière très simple. J'ai toujours eu une réflexion, en fait, sur les produits, sur la manière de les consommer. Je trouvais que lorsqu'on mangeait une huître, cette eau, on ne savait jamais ce qu'on en faisait. Quoi. C'était toujours, soit on faisait une aspiration inélégante, soit le beaucoup lait de chaque côté de la bouche. Et tout. Je me dis, bon, ben, la meilleure façon de la rendre, dégustable, je ne sais pas si le mot se dit, mais la meilleure façon de la déguster, c'est de donner la consistance à l'eau. Et donner la consistance à l'eau, c'est tout simplement faire une gelée. Quand vous maîtrisez la technique, donc vous savez faire une gelée, donc c'est bien. Après, comment vous dire, à l'époque, je sais pas, un de vos confrères du Figaro m'avait appelé le petit prince du feuilletage. Alors, vous imaginez, ça m'avait mis des ailes, donc je faisais même des plats avec du feuilletage. Je me souviens d'un riz de veau aux écrevisses, un millefeuille de riz de veau aux écrevisses. Et en fait, je me suis vite aperçu qu'il y a... Mais ça, il y avait deux choses à ce moment-là. Je voulais aussi montrer la technique. Et je me suis aperçu que pour certaines préparations, la technique était superflue. Bon, voilà. Mon fameux riz de veau, bien sûr, moi, quand je le goûtais, première fois que je l'ai fait et que je l'ai goûté, il était formidable. Mais cinq minutes après, c'est-à-dire que cinq minutes, c'est à peu près le temps que mettait le convive pour la déguster, ce feuilletage qui était tellement croustillant en sortant de la cuisine, il était tout ramolli par la sauce. Donc voilà. Après tout ça, j'ai fait tous ces réglages au fil du temps. Et je reviens à ces langoustines parce que si je m'en souviens aussi de manière aussi limpide, c'est qu'un jour, bon, il faut imaginer, la cuisine était minuscule, hein, 19 mètres carrés, et j'étais devant le fourneau. Et j'entends une voix qui m'était totalement, bien sûr, que je connaissais parfaitement. C'était Jean Troisgros qui était dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Alors, je ne dis pas le choc et l'émotion, c'est-à-dire de.
C'était une surprise, vous voulez dire?
Ah oui, je ne savais pas qui venait. Donc, c'était une immense surprise et de le voir là, j'ai pris ça à la fois, vous imaginez la surprise. L'émotion, et puis de se dire, bon, c'est quand même génial qu'ils viennent voir quoi, ce que je fais. Vous avez votre maître d'apprentissage qui vient voir ce que vous faites. Je me dis, c'est extraordinaire. Et puis à la fin du déjeuner, il me dit, où trouves-tu des langoustines aussi grosses? Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais bien de ne pas aller me coucher et d'aller chercher les langoustines comme ça, voilà. Vous imaginez, impressionner son maître d'apprentissage, c'est quand même je pense que c'est le rêve de tous les élèves, quoi. Voilà. Donc. Et là, je suis resté, donc, 7 ans rue du Ray avec, une grande, comment dire, ça a été une grande réussite, parce que très vite...
Première étoile au Guide Michelin un an plus tard, deuxième en 1985, vous êtes monté de façon fulgurante.
C'est allé très très vite, ouais, très très vite, avec un restaurant plein midi et soir. Mais je crois que je ne m'en rendais pas compte. Moi, c'était la cuisine, c'était ma manière de faire, c'est mon truc. Donc en fait, souvent, avec le recul, je me suis dit, mais... Est-ce que parfois, au-delà de la cuisine, tu as su savourer? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je ne peux pas dire que j'étais un abruti du travail, hein, mais comment dire, il y avait une telle volonté d'avancer et de. Je sais pas. C'était pas. C'est même pas réalisé un rêve, parce que je suis tout. J'ai jamais vraiment fait de projection, en fait. C'était au quotidien. Et encore une fois, cet instantané, ce concret, moi, ce qui m'enchantait, c'était de voir des convives heureux au déjeuner, et puis déjà tout de suite penser au dîner pour revivre les mêmes sensations au dîner. Pas de, on dirait aujourd'hui, plan de carrière. Non, pas aucun plan de carrière.
Guy Savoy, vous nous avez parlé de ces huîtres en nage glacée qui est un de vos plats phares, signature, on dit, le plat signature d'un chef, qui est le versant marin. Il y a un versant terrien chez vous. C'est la fameuse soupe d'artichaut à la truffe et brioche feuilletée aux champignons que vous faites depuis longtemps. Vous l'avez trouvée rue Duret ou rue Troyon?
Rue Duret, sur la fin de la rue Duret. Alors, je ne sais pas ce plat, comment il est né.
Déjà, il est né, pardon de vous interrompre, peut-être ça peut vous lancer, parce que déjà, il est né de votre amour pour l'artichaut comme légume. Votre maman disant que c'était le seul légume que vous acceptiez de manger bébé en purée.
Absolument, déjà. Mais ça, elle me l'a appris, c'est vrai. Et c'est, bon, il y a eu ça, il y a eu, bon, je sais qu'au XVIIe siècle, on retrouve des recettes d'artichaut et de truffes, mais pas forcément en soupe. Et puis surtout, il fallait, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse brioche feuilletée aux fruits confits de Louis Marchand. Et moi, cette brioche, j'avais qu'une idée en tête, c'était de la faire en version salée. Voilà. Et je crois que c'est, enfin, la réflexion a fait que les pièces du puzzle se sont réunies, j'ai envie de dire presque naturellement, quoi. Ce qui a fait dire un jour à un des fidèles convives de cette maison, il me dit ta soupe, c'est l'artichaut parce que c'est tes origines modestes, la truffe parce que c'est ta quête d'excellence, et la brioche parce que c'est ton âme d'enfant.
Tout est dit.
Ben voilà.
Donc, tout est dit.
Ça s'est fait naturellement.
Merci, Guy Savoy. Merci. On poursuit l'épisode suivant, l'épisode 3, l'expérience du grand restaurant. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Guy Savoy, réalisation Franck Lilin, prise de son Florent Layani, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.